VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Bion, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a assisté aujourd'hui à une cérémonie commémorative à Libreville sans faire de discours, mais où il a été filmé par des médias internationaux pour la première fois depuis son AVC il y a 10 mois. Il s'agit de sa première apparition publique hors de son palais et filmé par d'autres organes que ceux de la communication de la présidence ou des médias d'État au moment où une partie de l'opposition relance le débat sur sa capacité à exercer ses fonctions. Les détracteurs du chef de l'État gabonais appellent d'ailleurs leurs compatriotes à venir massivement se faire leur avis sur la question samedi lors du défilé militaire pour le 59e anniversaire de l'indépendance auquel M. Bongo assiste chaque année. Le président doit aussi s'adresser à la nation dans un discours diffusé par les télévisions gabonaises vendredi soir. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo est convoquée en session extraordinaire afin d'investir le gouvernement dont la formation est attendue depuis 7 mois, annonce jeudi la présidente de cette institution. La session extraordinaire se déroulera du 19 août au 7 septembre 2019. Le chef de l'État congolais a nommé M. Ilunga Ilunkamba au poste de Premier ministre au mois de mai, sur proposition de l'ancien président Joseph Kabila, dont les partisans ont obtenu la majorité des sièges au Parlement à l'issue des législatives. Sur la base d'un accord conclu entre les deux parties, le prochain gouvernement congolais doit être composé de 65 membres, dont 42 seront issus des rangs du Front commun pour le Congo, FCC, la coalition des pro-Kabila. Cap pour le changement du président Félix Tshisekedi comptera seulement 23 membres. Et donc le nombre annoncé de postes ministériels du gouvernement qui se fait attendre continue à indigner certains membres de la classe politique. La coalition des Congolais pour la transition, CCT, dénonce cette situation et déclare mettre sur pied ce qu'elle a appelé l'autorité du salut populaire. Guédi Sango a donc joint à Paris le président de cette coalition, Emery Damien Kalouira.
La multiplication d'institutions dans un pays où le budget est dérisoire, un budget de moins de 5 milliards de dollars par année. Vous avez ici 26 gouvernements provinciaux, 26 parlements provinciaux, un gouvernement national éléphantesque de plus de 65 membres, un cabinet présidentiel de plus de 150 membres, et nous comprenons clairement la logique de ces gens-là. Ils ne veulent pas soulager la misère qui ronge les Congolais, ils veulent s'enrichir. Et pour donc apporter la réponse aux attentes très longues du peuple congolais, notre coalition, notamment, a pensé utile de mettre en place une équipe parallèle sur laquelle les Congolais peuvent compter pour aspirer à un véritable changement. C'est nulle part au monde. Même la Chine, qui est un grand pays du monde, n'a pas 65 ministres nationaux. Même les États-Unis, qui sont la première puissance du monde.
Vous parlez de la longue attente alors que le Premier ministre Sylvestre Ilunga dit que, vu le caractère sérieux de cet exercice, cela ne laisse aucune place aux effets d'annonce. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit aussi sérieux pour prendre autant de temps pour mettre les gouvernements en place?
Ils sont plutôt en train de se battre sur le partage du trésor public. Ils se battent pour voir qui va avoir beaucoup d'argent, qui aura combien. Ils ne se battent pas pour mettre en place un gouvernement responsable d'hommes et de femmes intègres, probes, qui travailleront pour le peuple congolais.
Entre-temps, la situation sécuritaire et même dans l'ensemble n'est pas aussi reluisante que ça. Les jeunes gens à Beni veulent prendre les armes et l'armée les met en garde. Quelle est votre réaction?
Le gouvernement devrait montrer qu'effectivement, nous voulons la paix dans cette partie du territoire. Nous devons encourager ces jeunes puisqu'ils sont les mieux placés pour leur sécurité. Ils savent d'où viennent les criminels. Donc, si l'armée interdit aux jeunes de s'organiser pour mettre fin aux crimes récurrents à Beni, ça voudrait tout simplement dire qu'il y a une complicité au sommet. L'État ne doit pas être absent. C'est depuis plus de 5 ans maintenant, il y a eu plus de 5 000 personnes civiles égorgées comme des moutons à Beni. Le gouvernement n'a jamais rien fait, les FARDC n'ont jamais rien fait. Le monde entier qui est représenté au Congo par plus de 57 armées étrangères réparties en 22 casques bleus n'ont jamais réussi à ramener la paix à Beni. Donc nous pensons que l'armée devrait plutôt encourager ces jeunes à s'enrôler dans l'armée et à défendre cette partie du territoire.
Emery Damien Kawira, le président de la coalition des Congolais pour la transition. Au Soudan, les chefs du mouvement de contestation ont désigné hier un ancien haut fonctionnaire de l'ONU, Abdallah Hamdok, pour devenir premier ministre du futur gouvernement de transition. Michel Joseph.
Abdallah Hamdok, économiste, a été de 2011 à 2018 vice-secrétaire de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. En septembre 2018, l'ex-président Omar al-Béchir l'avait même désigné ministre des Finances, mais il avait refusé le poste. Le Conseil souverain, future autorité, composé de 6 civils et 5 militaires, doit annoncer mardi s'il le confirme à ce poste. Le gouvernement devrait être formé le 28 août en majorité par des civils et rencontrera le Conseil souverain le 1er septembre. La transition, commencée le 4 août avec le paraphe de la déclaration constitutionnelle, durera 3 ans et 3 mois. Cette transition doit s'achever par la tenue d'élections dans ce pays de 40 millions d'habitants, dirigé pendant 3 décennies d'une main de fer par le général Omar al-Béchir. Les 300 membres de l'Assemblée législative, dont 40% de femmes, seront nommées dans les 3 mois suivant la signature de l'accord demain samedi. D'ailleurs, le jour de la signature de cet accord coïncide avec l'ouverture à Khartoum du procès de M. Béchir, inculpé de corruption.
3 policiers burkinabés ont été tués dans une embuscade jeudi dans le nord de Burkina Faso au lendemain de la mort de 4 militaires, eux-mêmes tués par un engin explosif. Les policiers tous du commissariat de Djibo sont tombés dans une embuscade alors qu'ils étaient en mission de sécurisation d'un site de réfugiés à Djibo-Métao, d'après le syndicat de la police, UNAPOL, dans un communiqué. Le Burkina Faso est confronté depuis 4 ans à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. La maison d'un leader de l'opposition au Mali, au Malawi, qui conteste les résultats de la dernière présidentielle, demain a été la cible de 3 cocktails Molotov, ont affirmé jeudi des opposants et Amnesty International. Timothy Mtambo, président de la coalition de défense des droits humains, n'a pas été blessé, mais l'un des projectiles a incendié son véhicule. Amnesty International a dénoncé cette attaque lâche, similaire à 3 autres récentes attaques contre des bureaux et des membres du principal parti d'opposition, le parti du Congrès du Malawi, MCP, dont le QG a notamment été incendié au mois de juillet.
Nos infos sur voaafrique.com.
Les autorités israéliennes vont autoriser l'entrée sur leur territoire à l'élu démocrate américaine Rachida Tlaib pour motif humanitaire, a indiqué aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. Israël avait annoncé la veille avoir interdit la visite de Mme Tlaib et d'une autre élue américaine, Ilhan Omar, en raison de leur soutien au mouvement de boycott de l'État hébreu et à la suite d'une demande du président Donald Trump. Mais le ministre Arié Deri a décidé d'autoriser l'entrée de Mme Tlaib pour une visite humanitaire à sa grand-mère. Rachida Tlaib a aussi promis de ne pas faire avancer la cause du boycott contre Israël durant son séjour, selon un communiqué du ministre. Rachida Tlaib est la première élue du Congrès américain d'origine palestinienne. Le territoire israélien est la porte d'entrée pour les territoires palestiniens. 3 migrants recueillis en Méditerranée par le bateau humanitaire Open Arms, bloqué au large des côtes italiennes, ont été évacués d'urgence pour des raisons médicales, a annoncé aujourd'hui sur Twitter l'ONG espagnole Proactiva Open Arms. Après cette évacuation nocturne sur Lampedusa, il reste 134 migrants à bord et l'Italie se refuse toujours à les laisser débarquer, a précisé un porte-parole de l'ONG. C'est la 6e fois que des migrants recueillis par Open Arms sont évacués d'urgence. 6 pays de l'Union européenne se sont dit prêts à accueillir chacun une partie des migrants, mais le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, se refuse jusqu'à présent à les laisser débarquer. La police de Hong Kong affirme disposer de ressources suffisantes pour continuer à se dresser devant les manifestants pro-démocratie, même si la violence devait s'intensifier, atténuant donc les craintes d'un recours à une intervention militaire depuis la Chine continentale. 3 commandants de la police hongkongaise ayant accepté de recevoir une poignée de journalistes étrangers ont déclaré jeudi qu'ils n'étaient pas au fait d'un quelconque projet de Pékin d'envoyer des troupes pour leur prêter main forte, y compris si la crise politique s'aggravait. Jean-Roger Billon, prochain journal dans 50 minutes, vous retrouverez Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.